Nous avons tout fait, c'est ce que dit Leandre Kouyavouga, directeur des rédactions du groupe de presse Iwachu. En plus d'avoir porté plainte à la police, les journalistes du groupe ont mené de nombreuses investigations jusqu'à découvrir deux corps sans vie dont l'un avait été décapité dans la rivière Mubarazi. Le groupe a réclamé une autopsie et des tests ADN pour voir si leur collègue disparu, Jean Bigilimana, ne se trouverait pas parmi eux. Mais la demande a été vaine. Mais 4 ans plus tard, après la disparition de Jean Bigilimana, ses collègues gardent espoir de connaître un jour la vérité. 22 juillet, triste commémoration du disparu. Un autre 22, cette fois-ci en octobre 2019, la foudre s'abat à nouveau sur le groupe avec l'arrestation à Bubanza de 4 reporters du groupe Iwachu. Ils ont été reconnus coupables de tentatives de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et condamnés à 2 ans et demi de prison et à verser chacun une amende d'1 million de francs burundais. Le contexte général sur la situation des médias au Burundi et ces faits particuliers que nous venons de citer suscitent beaucoup d'interrogations et donc des questions à poser à nos deux invités. D'abord Alexandre Niungeko, président de l'Union burundaise des journalistes. Bonjour.
Bonjour Franck.
Nous retrouvons également Emmanuel Nguengurutse, ancien sénateur. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Bienvenue à tous les deux.
Merci.
À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette édition du Club de la Presse. Alexandre Niungeko, vous avez certainement suivi l'hommage rendu à Jean Bigilimana par ses collègues. La peine est encore vive. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir que justice soit faite?
Merci bien, effectivement, nous avons suivi et nous faisions partie aussi de ceux qui effectivement ont cette peine de n'avoir pas justice 4 ans plus tard. L'espoir, bien évidemment, nous en avons, mais c'est un espoir dirigé ailleurs, pas sur le pouvoir de Bujumbura qui vient de passer plus de 4 ans sans que effectivement on puisse faire la lumière sur cet enlevement. Et puis, on ne pouvait s'attendre de ce pouvoir que cette lumière puisse faire, surtout que nous savons que ceux qui ont kidnappé Jean Bigilimana, ceux-là même qui tiennent en otage le pouvoir judiciaire, la justice burundaise, et ceux-là, on sait très bien que on ne pouvait pas.
Mais quand vous dites ceux-là qui ont enlevé Jean Bigilimana,
Jean Bigilimana a été enlevé par le service national de renseignement. Et on sait très bien que la justice, les pauvres magistrats, je m'excuse d'utiliser ce terme, je le mets entre guillemets, les magistrats burundais ne peuvent rien face à la puissance du service national de renseignement. Et donc si l'enlèvement a été concocté par le service national de renseignement, il n'y a aucun magistrat qui s'aventurerait pour mettre la lumière sur cet enlèvement. Et surtout que même ceux qui ont participé d'une manière, qui ont été cités dans les premiers jours, eux-mêmes ont disparu mystérieusement. Certains ont été assassinés, d'autres on a dû trouver leur corps jeté dans la nature. Et donc voilà, c'est cette peur là que cette machine à tuer a déjà instaurée qui fait qu'effectivement la justice est devenue inexistante pratiquement.
Et donc
pour nous cette justice là, ce sera quand le Burundi aura recouvré son état de droit, que l'état de droit aura retrouvé sa place au Burundi. Nous savons très bien qu'à ce moment-là, la justice redorera son blason et cette justice-là qui sera indépendante et va effectivement mettre la lumière sur tous ces crimes. Ce n'est pas uniquement, Jean-Luc Guillemin.
Mais à vous entendre parler, c'est comme si ce sont les services, notamment de la police, qui sont beaucoup plus impliqués sur ce dossier-là, et que la justice, elle, ferait bien son travail s'il n'y avait pas un œil sur elle.
Il y a un proverbe kirundi, je vais bien le dire en kirundi, mwera uva wikuruga kwira hose. Et donc c'est clair que cette injustice, toutes les institutions ont l'image de ce qui dirige le pays. Et bien évidemment, donc quand tu dis que que la justice, mais elle ne peut pas l'être, parce qu'effectivement c'est le reflet plutôt de cela. Les hommes intègres, on leur permettrait pas de rester là. S'ils restent là, c'est qu'ils en payeront. Ils en payent de leur vie, certains.
On en a vu qui ont pris l'exil.
Absolument.
Pour avoir osé,
exactement,
effectivement, braver. Ouais. 4 ans viennent de s'écouler. Les journalistes ont mené des investigations qui ont donné des pistes sur la disparition de leurs collègues. Alexandre vient de parler notamment des agents du service de renseignement. Mais visiblement, ni la police ni la justice ne s'en sont pas saisis. Emmanuel Nyangouze, comment expliquer cela?
Alors, comment expliquer ça? C'est que c'est une des preuves, de nombreuses preuves. Et ça, c'est une preuve irréfutable pour moi, que le pouvoir de manière générale est impliqué, n'est-ce pas, dans la disparition forcée de M. Jean-Louis Grimana. Parce que l'ordonnancement juridique et institutionnel en vigueur au Burundi exige que la police, la magistrature à travers le ministère public doivent se transporter sur le lieu du crime et faire en sorte que des investigations soient rapidement menées pour découvrir les auteurs des forfaits, des infractions, n'est-ce pas? Et ainsi, quand on les découvre, on les fait traduire devant les cours et tribunaux pour que ceux-ci puissent effectivement lui administrer aux auteurs les punitions appropriées. C'est ça la justice.
Sauf que jusqu'à maintenant, on sait qu'il n'y a pas encore eu de lumière, mais personne n'a encore dit qu'ils n'ont pas été sur les lieux.
Est-ce que vous avez des preuves qu'ils ont été sur les lieux?
C'est ce que je dis.
Ça ne se fait pas dans le secret. Ce sont des affaires publiques. Ça, c'est, l'instruction est publique, n'est-ce pas? Même si au niveau du contenu, c'est secret, mais la chose se fait de manière public.
Transparente.
Et, oui. Et on aurait dû approcher notamment les journalistes qui ont mené quelques investigations. Et depuis 4 ans, vous allez me dire qu'ils n'ont rien trouvé, qu'ils puissent déposer devant le tribunal ou à faire une plainte contre X, par exemple.
J'ai dit dans l'introduction que le directeur des rédactions a dit que tout a été fait
pour eux. Tout a été fait pour eux. De leur côté.
Oui, tout à fait.
Maintenant, il faut que l'appareil de justice, l'appareil étatique de manière générale, puisse effectivement être enclenché quand on saisit la police. La police doit absolument faire suite, n'est-ce pas, aux requêtes des individus. Et le ministère public, lorsqu'il y a une infraction, doit absolument être se saisir lui-même et faire en sorte que les enquêtes soient menées et donner finalement le résultat de ces enquêtes. Jusqu'à présent, il n'y a aucune enquête. Voilà. 2. Maintenant, quand on sait qu'il y a eu des infractions qui se commettent et qu'il n'y a pas d'écho au niveau de l'instance judiciaire, le pouvoir public, politique, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau du Parlement, il devrait s'en inquiéter et poser la question aux responsables concernés. Qu'est-ce qui se passe à propos du dossier de M. Jean-Louis Guillemin?
Et notamment le Parlement ou l'Assemblée nationale.
Voilà, oui. Voilà. L'Assemblée nationale.
Qui peut poser la question au ministre de la Justice, notamment.
Notamment, celui-là aussi devrait. Et le ministre de la Justice, pourquoi? Il doit faire il peut se, transmettre ses inquiétudes au parquet et demander à ce que des enquêtes soient menées. Mm-hmm. Ce qui lui est interdit, c'est de faire stopper les enquêtes en cours. Mm-hmm. Mais lui, d'autorité, il peut demander au parquet de les mener. Pourquoi, durant toutes ces 4 années, on n'entend absolument rien? Cela veut dire que, dès lors qu'ils ont la charge de mener des enquêtes, de réprimer, en fait, les fauteurs de troubles, de réprimer les criminels,
oui,
n'est-ce pas, pour établir justice aux victimes, et qu'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils cachent quelque chose. Mm-hmm. Ils cachent quoi? Ils cachent les véritables commanditaires. Lorsque les enquêtes seraient menées, et qu'on découvre l'auteur de... du détournement.
Vous voulez dire les vrais commanditaires qui pourraient être dans leur propre rang?
Exactement. Mmh. Non, mais le service de renseignement, il est sous les ordres du pouvoir, n'est-ce pas?
Absolument.
Alors là, ça c'est une preuve irréfutable, donc je reviens, que le pouvoir politique, au niveau même le plus élevé, est impliqué dans l'enlèvement forcé. Et la disparition forcée de Monsieur Jean-Luc Guilmana. Et par conséquent, on ne va pas lui demander de se faire, d'aller se présenter devant la justice pour qu'on lui condamne. On essaie en fait de lier les mains de la justice. Par la police qui est contrôlée par le pouvoir exécutif, par la justice et les magistrats qui le sont également, ils sont contrôlés, ils sont sous la coupe du pouvoir exécutif. Donc ne vous attendez pas à ce qu'il y ait justice de la part de ces gens-là, parce qu'ils essaient de tout cacher.
Et donc,
ils commettent le crime et ils le font cacher.
Et donc tous les deux vous convergez sur la même chose, et donc le désespoir de voir la justice aujourd'hui faire son travail correctement. Mais ces raisons-là prévalaient il y a 4 ans. Est-ce que les mêmes raisons sont valables aujourd'hui, Alexandre?
Oui, juste une petite rectification. Ce n'est pas un désespoir, c'est le constat. On a dit quand même qu'on garde espoir que cette justice qu'on n'a pas aujourd'hui, on l'aura certainement quand l'état de droit sera restauré au Burundi. Et donc, vous dites que est-ce nouveau? Il n'y a rien de nouveau par rapport à ça. Parce que moi, je pense que même si, semble-t-il, nous avons un nouveau pouvoir, pour moi, ce n'est pas un nouveau, c'est juste de la continuité. Il n'y a rien qui a changé. Et donc, ce qui s'est passé à la première année, donc 2016 et 2020 aujourd'hui, tout était intact par rapport à ça et par rapport au constat, comme je le disais bien, de voir une justice pour le cas de Jean-Luc Guilmana. Ça reste le constat reste le même.
On est en train de parler de ce qui s'est passé il y a 4 ans, mais il y a un fait qui est tout à fait... enfin, il n'est pas nouveau, étant donné qu'on a déjà entendu d'autres discours de haine en parlant justement de justice. Depuis quelque temps, il y a un certain Claude Ndouimana qui a fait de son quotidien le fait de proférer des discours de haine, et en particulier en salissant l'ethnie Tutsi. Il le fait pratiquement tous les jours, il s'identifie lui-même, et il participe dans des séances publiques pour les journalistes. Comment est-ce que vous considérez cet état de fait?
Voilà,
c'est juste une parenthèse, et on reviendra sur...
Non, c'est très important, ce n'est même pas une parenthèse, je pense que c'est très important de le relever, parce que ce Kenny Claude, il est détenteur d'une carte de presse, lui délivrait officiellement et publiquement par le Conseil national de la communication. Les menaces ou les discours d'appel au lynchage de l'ethnie Tutsi, des discours haineux qu'il profère, il le fait au grand jour. Tu venais de le dire si bien, et il était dernièrement dans une conférence de presse de Naïd Chalier, il s'est présenté, il a même dit pour quel journal il travaille, et fièrement, il est là. Et cela, effectivement, montre très bien la place que le pouvoir actuel donne à ce genre de message. Mm. C'est cela qui est vraiment qu'on met au devant, alors qu'on est en train de persécuter des médias professionnels, des journalistes mmh. et professionnels, mmh. aujourd'hui qui croupissent en prison. Mmh. L'équipe du groupe de presse Ouachou qui croupissent en prison aujourd'hui pour avoir essayé de faire leur travail. Mmh. Alors que parce que ce sont des journalistes. Lui qui appelle au génocide, sans génocider, il y a un génocidaire qui sont la coule la douce, qu'on déploie le tapis et tout ça pour dire voilà, et on lui donne même un instrument pour pouvoir le faire. Mmh. Je voudrais rappeler quand même que ceux qui le fassent le jour, qui savent très bien que les crimes de génocide et d'appel au génocide sont imprescriptibles. Mmh. J'espère bien que je ne me trompe pas. Mmh. Et que aussi, ce crime est susceptible d'être poursuivi par la justice internationale. Mmh, mmh. Même si la justice burundaise ne s'en saisisse pas aujourd'hui.
Mmh. On l'a vu notamment avec
des journalistes rwandais qui se sont invectivés à appeler à la haine clinique. Mmh. On sait bien que le tribunal d'Arusha, le TPIR, s'en est très bien occupé. Mmh,
tout à fait.
Je pense que même maintenant, ces gens-là sont des candidats, effectivement, à cette justice-là. Mmh. Et bon, ça montre, voilà, c'est ça qui montre réellement quelle est la place que ce pouvoir donne à... Et c'est ça quand tu parlais de désespoir. Mmh.
C'est l'un des facteurs, en fait, qui participe à faire désespérer...
Pas désespérer, ça je veux
à constater.
Après ce constat, amer constat, amer certes, qu'on n'a pas, le pouvoir n'a pas intérêt à avoir une presse indépendante, une presse libre, parce que sinon ce serait permettre à ce que tous ces crimes soient étalés au grand jour, parce que c'est ça que donc mettre à nu toutes les violations, c'est cela normalement le travail des médias indépendants.
Tout à fait. Emmanuel, c'est exactement quand on parle de cette absence de justice à l'endroit du cas de Jean Bidilimana, c'est exactement la même chose pour le cas du caméraman de la RTNB, feu Christophe Mhezabaizi, qui a été assassiné avec toute sa famille par des policiers identifiés par des témoins comme ceux de l'appui à la protection des institutions. C'est dans la même logique pour vous?
C'est exactement la même chose. Mm. Est-ce que pour eux, les auteurs étaient identifiés? Et on connaît même leur nom. Et ils travaillent à l'unité de police chargée de la protection des institutions, n'est-ce pas? Ces gens-là sont connus, mais aucune poursuite pénale contre eux. Cela veut dire quoi d'abord? Cela veut dire qu'ils ont été mandatés par leur supérieur, n'est-ce pas? À supposer qu'ils étaient mandatés par le commandant de la paix. Est-ce qu'il n'y a pas d'institution judiciaire là-bas? Pourquoi la police judiciaire ne s'en occupe pas? Et si la police judiciaire ne s'en occupe pas, pourquoi le parquet ne s'en occupe pas? Si les deux ne s'en occupent pas, pourquoi le ministre de la Justice ne se met pas de cette inaction? Et si lui ne le fait pas, pourquoi le Parlement, pourquoi le gouvernement, le président de la République permet qu'une telle injustice puisse être maintenue dans le pays? Une impunité qui favorise quoi? La multiplication des crimes, le désordre national. En réalité, ça, c'est lorsqu'on tue des personnes comme ça, lorsqu'on commet des infractions, on ne s'attaque pas uniquement à la personne victime, on s'attaque à toute la nation, à l'État, qui est attaqué dans son intégrité. Parce qu'il y a l'ordre qui est déstabilisé et par conséquent, toutes les institutions nationales doivent se mobiliser pour
et donc, si je vous comprends bien,
donc que pour Bigirimana et pour Tarsis Ngezawaïs et pour d'autres,
Christophe, c'est un autre,
tout à fait différent. Bon,
mais c'est pas grave,
c'est pas grave. Pour le fait que la justice ne s'occupe pas de ces cas-là. Et d'autres encore n'ont rêvé, parce que c'est plein. Cela veut dire que c'est une preuve, que c'est le pouvoir qui est commanditaire.
Et donc, c'est les mêmes explications, les mêmes raisons.
C'est le même procédé, c'est le même modus vivendi, le modus operandi. C'est la philosophie, c'est la politique de l'État. C'est qui est tout ce qui est contre ces orientations politiques. Tu es à bannir.
Si on te bannit,
ne demande pas de justice parce que la justice est aux mains de l'État.
Absolument.
Exactement.
Juste en quelques mots, avant de passer à la deuxième partie, on a vu depuis 3 ans un élan de solidarité à l'endroit de la famille de Jean Bigirimana, et cette année n'a pas fait exception. Et l'UBJ est l'un des initiateurs de cette solidarité. Je sais qu'il y a eu une visite. Est-ce que la famille est toujours autant affecté, je veux dire psychologiquement.
Quelle question vraiment. Comment est-ce qu'elle ne peut pas être affectée? Voyez-vous, tout le monde est affecté.
En fait, ça fait partie des conséquences, mais c'est important quand même.
La famille tient bon, certes. Oui, mais elle reste quand même affectée. Je pense nous tous d'ailleurs, c'est pourquoi nous on continue à crier. Sinon, parlant de solidarité, je pense que ça a toujours été le leitmotiv de la famille et des professionnels des médias burundais. Ce n'est pas quelque chose qui est né aujourd'hui. Certes, je me réjouis que l'UBJ continue à maintenir cela et même d'autres organisations professionnelles. Je parle d'autres qui sont nés après l'association burundaise des journalistes en exil et même d'autres. Je crois que ça a toujours été la solidarité professionnelle des professionnels burundais a toujours été citée en exemple, même que ce soit sur le continent africain et même à l'international. Ça, je le témoigne, j'ai toujours participé à des forats, même que ce soit régionaux au niveau de la Fédération africaine des journalistes ou même au niveau de la Fédération internationale des journalistes. On a toujours été cité en exemple comme vraiment un exemple de solidarité. Et là, ça date déjà de quelques années, surtout quand les journalistes étaient en difficulté. Je parlais tantôt dans une autre émission de Ruvakuki. Je crois que ce fut le début vraiment de la manifestation de cette solidarité qui, par ailleurs, n'est pas restée sur uniquement larvée sur le domaine des médias seulement. Ça a été une solidarité même, je dirais, populaire. Rappelez-vous de la libération de Bob Lugurika, comment il a été accueilli par des milliers et des milliers de gens. C'est vraiment cette solidarité-là. Et cette solidarité, je crois qu'elle elle émane du fait de la nature du travail que nous faisons. Je pense que le service que nous rendons au public, c'est ce service-là qui, en retour, nous...
Avec les retombées, avec l'impact que cela, le travail a. Donc, c'est une manifestation de cette reconnaissance.
Absolument. Et donc, je pense que cette solidarité-là, on devrait la maintenir. Et je crois qu'on peut dire à tout le monde, à la famille de Jean Ténébo, c'est certes difficile, mais nous sommes ensemble dans cette douleur.
Voilà donc au moins pour un point positif. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par la télévision Renaissance et les radios Inzamba et RPA. Aujourd'hui, nous parlons de l'état actuel de l'exercice de la profession de journalisme au Burundi. Et pour cela, nous sommes avec Emmanuel Nyengurutse, ancien sénateur, et Alexandre Nyungeko, président de l'UBJ. Alors, toujours pas de justice pour Jean Bigirimana, puis les quatre reporters du journal Iwachu condamnés. Emmanuel, vous êtes un consommateur averti de l'information. Quelles pourraient être les conséquences de ce contexte sur les autres journalistes?
Ah, question très difficile. Mmh. Et aussi facile.
Est-ce que vous espérez avoir de l'information autant que vous le souhaitez dans un contexte pareil?
Je pense que ce qui souffre le plus, ce sont les Burundais qui sont au Burundi. Mmh. Mmh. Ça, c'est clair. Mmh. Mmh. Parce que là, on les coupe du médium, le seul qui puisse travailler de manière un peu indépendante et qui puisse donner des informations véridiques, mm-hmm. professionnelles, le groupe Iwachu, n'est-ce pas? Mm-hmm. Parce qu'ils sont, notamment par l'emprisonnement des quatre journalistes.
Mm, tout à fait.
Oui, pour Jean Bigirimana, ils ont pu continuer comme ils pouvaient. Mm. Mais maintenant, ils essaient de continuer. Mais voyez-vous, il y a une information qui... Il y a des moyens qui vont leur manquer. Mm. Probablement même... Alors, les consommateurs de l'info étant basés au Burundi. Et là, ils seront obligés d'entendre des informations.
Mm. Et quand vous parlez
des propagandes, des propagandes de monsieur... De monsieur qui, est-ce que c'est un monsieur? De Kenny Claude Chose. Le genre d'information que le pouvoir
veut... En tout cas, ce n'est pas une dame.
Bon, je ne sais pas. Ne me gavoyez pas. Bon, alors, c'est ça. Pour eux, il leur manque la source, la seule source indépendante qui leur reste.
Mais quand vous parlez de moyens, de quoi vous voulez parler exactement?
De moyens, ça veut dire les journalistes. Mmh. Les ressources humaines. Mmh. Oui, mmh. les ressources humaines.
Parce que expérimentées. Quatre unités, c'est
beaucoup.
C'est énorme.
Oui, pour un médium indépendant, c'est beaucoup. Parce que là, au niveau de l'efficience, on n'y met pas trop de monde. Mmh. Le budget n'étant pas celui de l'État. Par exemple, à l'ETNB, on peut toujours mettre des gens qui ne produisent absolument rien. Ils vont toujours avoir des émissions à produire. Mmh. Alors, mais pour les Burundais maintenant se trouvant à l'étranger, heureusement que vous êtes là. Il y a des journaux indépendants, beaucoup d'ailleurs. Et pour nous, c'est pour ceux qui sont à l'extérieur, là, l'impact n'est pas énorme.
Mmh. Mais ceux du Burundi également, avec les réseaux sociaux, ils arrivent quand même
les réseaux sociaux, c'est pas tout le monde qui en bénéficie. Mmh. Avec les conditions de vie des Burundais, même ceux qui en possédaient, ils les perdent de plus en plus. Consécutivement à la paupérisation croissante de la population burundaise. Mmh. C'est ça la nuit. Le grand impact négatif, c'est bien celui-là. Mmh.
Alexandre, l'une des conséquences de ce contexte est sans doute une certaine autocensure, n'est-ce pas?
Absolument.
Lui vient de parler d'un problème d'unité, mais il y a certainement une certaine, étant donné sans doute qu'il peut y avoir un problème de liberté.
Ce n'est pas qu'il y a l'autocensure, en mon avis, je crois que c'est plus grave que ça. C'est plus grave que ça, surtout quand nous avons le contexte dans lequel où des rédacteurs en chef ont été convoqués au service national de renseignement pour leur demander quelles sont les nouvelles dont vous allez traiter aujourd'hui. Vous comprenez très bien que ça, je n'appellerai pas cela autocensure. Mm-hmm. Je dirais plutôt...
C'est de la censure.
C'est de la censure. Qui... Et le fait, ce que vous appelez sans l'autocensure, à mon avis, ça devient plutôt une sorte de... qu'est-ce que vous voulez? C'est une sorte de d'inertie par rapport au fait de dire, voilà... qu'on ne me coupe pas la tête.
Mmh. Si je touche
sur ce sujet-là, on va me couper la tête. Mmh. Ce n'est pas de la simple autocensure. Mmh. Je crois on peut s'autocensurer en disant, voilà, ben, je laisse ce sujet, tout ça.
On peut parler de prudence que d'autocensure.
Mais vraiment, c'est pas ça. C'est pas vraiment de la... Ils sont menacés. Mmh. Ils sont purement...
Et donc, du coup, ils sont beaucoup plus puissants.
Ils sont purement interdits. Mmh. C'est vraiment de l'interdiction, c'est pas vraiment de l'autocensure. Mm-hmm. Parce que si on parlait de l'autocensure, on dirait, voilà, c'est de l'irresponsabilité. Mais ils sont interdits de traiter ces sujets-là. Mm-hmm. Parce que vous allez le voir. Je crois que je discutais avec avec un ami à propos
rapidement.
Qui me disait, mais on ne voit pas par exemple dans les médias ougandais où on vous parlez de des corps sans vie qu'on trouve à gauche à droite. Mais c'est très rare qu'on les trouve dans les médias burundais. Et voulez-vous, comment voulez-vous que les médias burundais les traitent s'ils veulent pas, si les journalistes les traitent, s'ils ne veulent pas aussi se retrouver à la place de, ce, de ces corps-là?
Et c'est là que les médias, comme les médias en exil, comme la radio Inzamba, interviennent.
Absolument.
Pour, combler, là, pour combler ce vide.
Je crois que Emmanuel l'a bien dit, les médias aussi en exil essaient de faire ce qu'ils peuvent faire. Bien évidemment, ça reste limité parce que c'est limité aussi par les moyens. Pouvoir collecter, traiter de l'information à distance et la traiter de manière professionnelle, ça a un coût d'abord.
Certainement.
Et ce coût, c'est pas toujours évident que y en a, mais je crois que ces médias, ils essayent. Et je pense que même d'autres l'ont dit, bon, c'est pas pour se gargariser, mais je
vous
pense que
des fleurs,
mais je crois que nous essayons de contribuer. C'est un service public que nous rendons, et d'ailleurs, je pense que c'est une obligation pour nous de rendre ce service, parce que le public a besoin de, plutôt, c'est pas un besoin seulement, c'est pas plus qu'un, c'est plus qu'un besoin, c'est un droit à l'information.
Absolument.
Je crois que nous, en contribuant à ce que le public ait accès
à cette information,
à ce droit à l'information, nous avons aussi l'obligation de pouvoir le faire.
Absolument. Voilà. Pour terminer, juste en quelques secondes, il y a une mauvaise nouvelle qui nous est parvenue ce matin. L'ancien facilitateur dans le dialogue inter-burundais, Benjamin...
Parlez de médiateur.
Oui.
Le facilitateur, oui. Il est toujours en vie. Hein.
Ah d'accord, ok. le médiateur.
Le médiateur.
Je les confonds. Hein, le médiateur,
oui, je crois que moi, c'est...
Le médiateur, c'est Moussel Veni, facilitateur. C'est Benjamin.
Ah ben voilà, donc j'avais raison.
Oui, oui.
Bah, je retire.
Aïe, aïe, aïe. Merci maître, j'ai mon avocat en présence, heureusement okay, sur le plateau. Donc on parlait de Benjamin Mkapa, donc, qui est décédé la nuit dernière. Un mot sur son implication dans le processus de dialogue inter-burundais.
Un mot, que Dieu ait son âme, paix à son âme. Et deux, il avait essayé tous les moyens possibles. Même il a investi des moyens apparemment techniques pour que la facilitation entre le pouvoir et l'opposition puisse aboutir à quelque chose de positif, puisse aboutir en fait à ce qu'il avait contribué auparavant quand il était président de la Tanzanie, n'est-ce pas, à signer l'accord de paix et de réconciliation au Burundi, la corte pédaloche. Mais ça n'a pas marché parce que lui-même, il a dit, il a donné dans son rapport, il a été boycotté par ceux qui devaient l'aider. Bon, le gouvernement burundais, bon, c'est normal dans sa vision politique autoritaire et aux allures dictatoriales. C'est normal qu'il ait boycotté, mais ce qui est curieux, c'est de voir que certaines autorités tanzaniennes l'ont boycotté. Surtout, la Tanzanie jouant un rôle très important, c'est elle qui a abrité les négociations de paix d'Arusha.
Quand vous parlez de certaines autorités, vous parlez du gouvernement, vous parlez de la présidence, de qui parlez-vous exactement?
De qui côté? C'est lui là, qui a le pouvoir réel en Tanzanie. C'est un groupe qui évolue autour de lui. Lui, il a des intérêts énormes au Burundi, intérêts économiques. Je crois qu'il pense que l'équipe au pouvoir au Burundi, il pense qu'il pourrait mieux les sauvegarder, le protéger. Et lui, il a fait en sorte. Donc, il n'a pas voulu que le pouvoir du CNDD-FDD puisse s'assouplir. Je ne sais pas pourquoi. Parce que lui aussi n'est pas garanti de la stabilité, de la durabilité de ses intérêts. Je ne sais pas, moi qu'il utilise d'autres moyens. C'est dommage, parce que les relations entre les Tanzaniens et le Burundi sont normalement très bonnes depuis longtemps. Et c'est dommage qu'ils aient trahi, n'est-ce pas, l'héritage d'Omze Nyerere. Et alors là, il n'a pas pu arriver à un résultat quelconque, mais lui, il avait essayé. Mm-hmm. Et la faute n'est pas à lui.
Mm-hmm. Alexandre, il dit que Benjamin Mkapa avait les mains liées, ligotées. C'était également votre constat?
Oui, c'est le constat amer. Et malheureusement, ligoté par un de ses compatriotes qui fait du Burundi son business personnel.
Qui fait la pluie et le beau temps. Il parlait de Kikwete, c'est
oui,
de lui que vous parlez
c'est lui,
enfin,
c'est
également.
C'est lui, effectivement, qu'on parle. Bah, il ne le cache même plus. Hein. Il ne le cache même plus. Il est très visible à Bujumbura, même en période de Covid et tout ça. Bon, Maître se disait, est-ce que c'est durable? Moi, je pense que les voleurs, ils se posent pas trop de questions sur la durabilité. Parce que pour eux, voler, il faut voler le plus. C'est pas la durabilité, je pense que c'est pour des gens qui pensent à l'avenir, qui pensent à la construction et tout ça. Pour ceux qui veulent voler, il faut voler plus
autant que possible.
Et le plus vite possible. Et je crois que Kikwete, il y arrive. Il y arrive, mais ce n'est pas. Je pense que. On s'en prend. Si c'était que lui, non. C'est que, en fait. Il est facilité dans cela par des Burundais.
Mais juste un mot, c'est dommage le départ de Benjamin Mkapa qui était considéré comme un
âge. Aussi quand même, il était âgé après tout. Il était né en 38. Bon, il est vrai qu'il y en a encore qui vivent encore, qui ont plus de son âge. Mais moi, je pense que oui, c'est un vieux qui part. Je crois qu'il faut le souhaiter.
De reposer un peu.
Un bon repos, que la terre lui soit légère, comme on dit. Mais sinon, bon, le constat, il est parti. Je crois que c'est aussi, ça fait partie aussi des choses qui l'ont certainement affaibli. Hein, parce que, à son âge, bien évidemment, croyant pouvoir donner sa force pour résoudre cela, et finalement, qui s'est retrouvé lui-même. Il a dit dans le discours de démission que ceux qu'il espérait qu'ils allaient le soutenir, c'est ceux-là plutôt qui ont continué à lui rendre la vie difficile et finalement à l'empêcher de pouvoir arriver à des résultats escomptés.
Voilà, donc c'est par cette page nécrologique que se clôt cette édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Alexandre Nyungeko, président de l'UBJ, et Emmanuel Nyangouloutse, ancien sénateur. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien.